France Culture.
Bonjour Farouk Mardambé.
Bonjour.
C'est le deuxième temps de ces émissions à voix nue. Lors de la première émission, vous nous avez raconté le voyage que vous avez fait en ce début d'année 2025. Voyage à Damas et dans la banlieue de Damas. Après 50 ans d'absence dans ce pays qui est le vôtre, qui est votre pays de naissance, et c'est non pas de la naissance que j'aimerais que nous parlions aujourd'hui, mais replonger quand même dans le passé. Ce passé d'avant les Assad, dans cette Syrie dans laquelle vous avez grandi. Vous êtes né le 23 avril 1944 à Damas. Le 23 avril 1944, c'est 2 ans avant l'indépendance du pays. Je rappelle que la Syrie était sous mandat français de 1920 à 1946. Dans quelle famille avez-vous grandi ?
Dans une famille aisée. Les Mardambé sont d'origine lointaine bosniaque. Et l'aïeul était un gouverneur de Damas au XVIe siècle. Et donc, il a laissé là une famille qui faisait partie de ce qu'on appelait les Ottomans locaux, qui se sont arabisés et qui sont devenus des notables de la ville avec des alliances matrimoniales avec des familles d'oulémas ou des commerçants riches, etc. Et la famille s'est beaucoup enrichie au XIXe siècle, pas la branche qui est la mienne, mais avec quelques personnages qui ont joué un certain rôle dans l'histoire du pays, à la fois sur le plan politique et sur le plan culturel. Bon, ma mère était d'origine très modeste et était infirmière sage-femme. Donc je suis né dans cette famille, on habitait dans un quartier au début qui est vraiment de bourgeoisie moyenne, de petite bourgeoisie, pas un quartier chic. Mais mes parents tenaient quand même à ce que je sois dans une école, dans les meilleures écoles de la ville. Et j'étais un élève très studieux, très timide, et je lisais beaucoup. C'est ma mère qui me poussait toujours à lire. Bon, je me rappelle qu'elle m'avait abonné à un magazine. Ça ne s'invente pas. Il s'appelait Sinbad.
Sinbad, comme les éditions Sinbad bon, Actes Sud que vous dirigez depuis 30 ans.
Et puis voilà, après le...
C'était un magazine qui était né en 1952 au Caire. C'était un magazine égyptien,
Sinbad. Oui, c'était au Caire.
Et il y avait quoi dans ce magazine, vous vous souvenez?
Bon, oui, bien sûr. Il y avait des histoires, pas mal d'histoires issues des milieux de nuit, mais aussi des histoires écrites par un excellent auteur pour les jeunes, Kamel Kelani, qui était très connu, qui dirigeait d'ailleurs aussi une collection de littérature de jeunesse. Et je crois que ces collections n'ont jamais été dépassées depuis, en qualité. C'était pour les 12 ans, 13 ans.
Plus de les
même, même une série qui s'intitulait « Les contes de Shakespeare », par exemple. « Le roi Lear »,« La tempête », etc. Et des contes des mille et une nuits, des contes indiens, des choses comme ça, voilà. Non, c'était vraiment quelque chose de très bonne qualité. Bon, en tout cas, après le certificat d'études, donc j'étais au lycée de la mission laïque française, qui s'appelait le lycée franco-arabe. Et là... au début, j'avais quelques difficultés, parce que là, le niveau de français était plus élevé que le mien. Et j'ai réussi à me rattraper à l'aide de cours à la maison.
Des cours particuliers.
Et on travaillait beaucoup, parce qu'il fallait préparer à la fois le baccalauréat syrien et le baccalauréat français. Bon, donc, on avait, je crois, 6 heures ou 7 heures, parfois par jour, de présence à l'école. C'était une période très compliquée. Parce que c'était un lycée français, et au moment où la France était le pays du monde le plus détesté dans le pays. C'est-à-dire, moi, tout gosse, j'entendais partout dire à quel point la France est méchante, à quel point bon. N'oublions pas que, en novembre 54, quand je suis entré à l'école, a commencé la révolution algérienne. Bon, 55, c'était le grand conflit entre la France, la Tunisie et le Maroc pour l'indépendance. Et donc, l'ambiance était assez mauvaise comme ça. Et moi, sans doute, j'imagine que je vais avoir une très mauvaise conscience d'être dans une école française en voyant tout le monde insulter la France. Voilà. Et surtout en 1956, quand il y a eu l'agression de Suez, l'agression tripartite de Suez, anglo-franco-israélienne. Et je me rappelle que cela m'a politisé très, très, très jeune. Vraiment, j'étais...
12 ans.
À 12 ans. Bon, à 12 ans, j'avais accroché la photo de Nasser sur le mur de ma chambre.
Qui était le président
et
égyptien.
Je parlais de politique, bon, avec assurance, etc. Bon, et il se fait qu'à l'école, il y avait des profs qui n'étaient pas du tout des profs, des Français, je veux dire, des profs français qui n'étaient pas du tout des fans de Guy Mollet et de Robert Lacoste, quoi. Bon, je veux dire, il y a un prof qui, peut-être en classe de première, me prêtait des magazines et des journaux qui lui arrivaient de Beyrouth, qui étaient tout à fait opposés à la guerre. Je me rappelle l'Express, France Observateur, l'ancêtre
du Nouvel Obs.
Le Canard Enchaîné. Bon. Et donc, je...
Vous lisiez ça?
Oui, oui. Je lisais ça. Et cela me donnait cette idée que j'ai gardée longtemps, que la France était double, qu'il n'y avait pas une seule France, mais il y avait deux France, quoi. Il y a celle de Guy Mollet, etc., mais il y a aussi celle de Sartre, si vous voulez. Parce que je me rappelle qu'on avait parlé, j'étais à l'école quand il y a eu le manifeste des 121. Avant le bac, puisque c'était, je crois, en 1960 ou un truc comme ça. Bon. Et cela m'a réconcilié avec la France, je veux dire. Bon. Et pour moi, c'était une chose très importante d'être là, d'aimer l'histoire de France, la littérature française, tout ça, et en même temps d'être opposé à la France coloniale.
Mais dans votre famille, quelle était la relation que vos parents, par exemple, avaient avec la France? Vous disiez, votre mère vous poussait à lire, mais pas nécessairement des livres en français, elle vous poussait à lire tout court.
Mon père était francophone. Mon père était francophone. Il était militaire. Donc, avant l'indépendance, il était dans l'armée du Levant, dans l'armée française, quoi. Du Levant. Bon, il parlait français, il aimait la France, etc. Et ma mère a fait des études chez les jésuites à Beyrouth, à l'université Saint-Joseph, d'infirmière et de sage-femme. Et donc là aussi, elle connaissait un peu, elle parlait un peu le français. Cela ne dépassait pas les besoins de son métier, quoi, de sa profession, quoi. Bon, mais tous les deux voulaient absolument que j'apprenne le français avec l'arabe, bien sûr. Et moi, je lisais beaucoup, beaucoup, aussi bien en arabe qu'en français à l'époque, pendant les années du lycée. Donc j'étais très politisé
et
nationaliste.
C'est ça, c'est vous qui viviez intérieurement cette ambivalence.
Oui, au début,
sans
doute. Bon, et puis il y a un autre moment qui était très important dans ces années de lycée, c'est quand nous avons eu un prof syrien, un prof d'histoire, qui était absolument formidable, qui nous prêtait des livres, qui était très bien. C'était en 1958, fin 58, c'est-à-dire j'avais 14 ans.
Vous étiez en seconde.
Bon, et début 59, il n'est plus revenu au lycée, et on a appris qu'il a été arrêté parce qu'il était communiste, quoi, parce qu'il appartenait au Parti communiste, et c'était la grande rafle des communistes en Syrie à l'époque. Et cela m'a beaucoup, beaucoup choqué, attristé, je pleurais. Je me rappelle, parce que je l'aimais beaucoup, et je me rappelle qu'il me prêtait des livres et tout ça. C'est lui qui m'a dit, il faut que tu lises un jour, parce qu'il savait que j'aimais beaucoup la poésie, il faut que tu lises un jour Pablo Neruda et Nazim Hikmet. Bon, deux grands poètes communistes. Et donc, quand j'ai appris qu'il a été arrêté parce qu'il était communiste, je suis rentré chez moi, j'ai déchiré les photos de Nasser.
Et vous êtes devenu communiste.
C'était pendant la période de l'unité entre la Syrie et l'Égypte.
Qui a provoqué une immense ferveur. Hein.
Entre 58 et 61. Bon. Et j'ai détesté Nasser depuis jusqu'à 70 peut-être. Bon. J'ai changé un peu après. Bon. Et donc, bon, si cet homme était communiste, c'est que le communisme est très bien, quoi. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu plus tard un compagnon de route du Parti communiste.
C'est ce professeur arrêté
en Syrie.
Quand vous étiez en seconde.
Oui. Alors, autre chose pendant cette année du lycée, c'est que, comme je dis, j'écrivais des poèmes très naïfs. Bon.
Ah, vous l'avez pas encore dit, Farouk Mardembe, parce que pour l'instant, vous avez parlé effectivement de vos lectures.
Et oui, mais j'écrivais
assidues,
des poèmes aussi.
De la politisation, mais il se trouve que la deuxième grande passion à côté de la politique, c'était la poésie.
C'était la poésie, voilà.
Vous vouliez être poète.
Voilà. Et je voulais être poète. Voilà. Et j'écrivais des poèmes très naïfs sur la Palestine, sur l'Algérie, etc. Comme
des poèmes politiques, alors.
Oui, des poèmes. Et un poème, que j'ai envoyé pour un concours a eu le grand prix, des jeunes de moins de 30 ans. Et il fallait lire ce poème pendant la foire internationale de Damas devant un très grand public. Je tremblais en disant, mais enfin, je l'ai fait. Voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de prestige à l'école, bien sûr, avec ça. Avec quelqu'un qui a eu le prix de la République arabe unie pour la zone nord, ce qui était la Syrie. On disait le nord et le sud d'Égypte. Et l'année d'après, en 1961, je publiais des poèmes dans les deux plus grandes revues littéraires arabes. Voilà. Alors, j'ai osé, ayant eu ce prix, envoyer des poèmes à Al-Adab, ça s'appelait Les Lettres, et Cher Poésie, qui était vraiment à l'avant-garde de la littérature arabe. Et ça a été publié, et j'avais 17 ans, alors cela m'a bien sûr donné le sentiment que j'allais devenir poète. Bon. Et puis bon, j'ai eu le bac scientifique. Je travaillais pas beaucoup, j'étais vraiment tout le temps ailleurs en politique, poésie, etc. Et j'étais à l'université où j'ai fait des études de droit, à la faculté de droit de Damas. Donc de 61 à 65. Et la première année, il y a eu le coup d'État qui a brisé l'Union syro-égyptienne. C'était en septembre 61. Bon, donc en octobre 61, je vais à l'université dans une ambiance très libérale, puisque le nouveau régime qui venait voulait être une démocratie parlementaire, comme cela a été le cas en Syrie entre 54 et 58. Bon, où il y avait une liberté de la presse, où il y avait un parlement, une opposition, etc. Bon. Et là, ils avaient comme projet de rééditer cette démocratie parlementaire avec la même constitution. Cela n'a pas duré longtemps, puisque en mars 63, il y a eu le coup d'État du Parti Baas et des Nassériens. Le Baas s'est débarrassé des Nassériens pour gouverner. Et il y a eu deux coups d'État, l'un après l'autre, qui ont donné le troisième coup d'État, étant celui de Hafez al-Assad.
En
novembre 70. Bon. Alors, à l'université, et même après la prise du pouvoir par le Baas, c'était une période où des étudiants manifestaient, discutaient librement. C'était de belles années pour moi, parce que c'était aussi des années d'apprentissage de ce qui était en dehors des matières que je devais apprendre. C'est-à-dire apprentissage un peu du cinéma, de l'histoire du cinéma, de la musique. On était un groupe. Les amis avaient loué une sorte de sous-sol où on se réunissait, on racontait nos lectures, on écoutait de la musique classique sous la conduite de quelqu'un qui était un connaisseur, bon, en tout cas, qui connaissait mieux que nous. Il y avait le club du cinéma qui était à Damas. Bon.
Oui, parce que vous disiez, Farouk Mardambel, pardon de vous interrompre, mais vous disiez dans la première émission que, en vous promenant dans les rues de Damas, vous avez vu la devanture de la librairie Avicenne, vous avez travaillé quelques mois, vous avez vu les enseignes de cinéma. En fait, à l'époque de votre jeunesse, quand vous aviez 18-20 ans, la ville grouillait de culture. Il y avait des festivals de cinéma. Il y avait une foire internationale où vous achetiez des disques de musique classique.
Des disques de 33 tours, oui, absolument. Et c'était très bon marché parce que c'était des 33 tours d'origine soviétique ou tchécoslovaque. Bon, donc c'était moins cher.
Il y a beaucoup de la culture des pays de l'Est,
Oui, des pays de l'Est. Et d'ailleurs, les festivals de cinéma, c'était les pays de l'Est. Les festivals de cinéma, c'était le cinéma soviétique, polonais, tchèque, etc. Bon, et on a vu des choses formidables, quoi. C'est-à-dire, c'était la meilleure production de ces pays-là. Et en même temps, dans ces cinémas que j'ai trouvés fermés là, en été, par exemple, il y avait deux cinémas qui avaient deux films par séance. Il y avait toujours un film d'aventure ou un western ou un film noir américain, etc., et un autre qui était un plus romantique. Et je me rappelle, quand on était à l'orchestre, c'était 50 centimes, et on voyait deux films. Et surtout en été, c'était très bien, parce qu'il faisait très chaud, et là, il y avait de l'air conditionné. Bon,
alors, bon. Deux films pour le prix.
Non, c'était des années où, justement, et cette librairie dont j'ai parlé à Vicennes, avait des livres français, toutes les nouveautés. Je me rappelle que là, j'achetais, par exemple, les poètes d'aujourd'hui, la collection publiée chez Segers sur tous les grands poètes du monde, quoi. Et donc, il y avait une vie culturelle. On assistait à des conférences, on assistait à des récitals de poésie. On discutait. Voilà, le dernier roman de Naguib Mahfouz vient de paraître. Est-ce que tu as lu, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Il y avait les gens qui étaient plus des anglophones, disaient, moi j'ai lu T.S. Eliot, moi j'ai lu Saint-Jean Perse, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'était une période très animée et très intéressante, vraiment. Et même après la prise du pouvoir par le Bas en 63, l'ambiance n'était pas terrible, quoi, parce que les bassistes étaient occupés de régler leurs comptes avec les Nassériens, qu'ils ont éliminés, et puis des disputes à l'intérieur du parti.
Dans cette société-là, quelle était la place des femmes à cette époque-là?
Mais elles étaient très présentes. Dans notre groupe, il y avait des femmes. Et, nous étions plus nombreux, je veux dire, malheureusement. Il y avait des femmes. Et je me rappelle notamment de l'une d'elles, particulièrement parce que c'était un personnage qui a eu après une histoire formidable. Elle a fait son doctorat ici en France et puis elle a émigré au Mexique où elle est devenue une personnalité culturelle au Mexique. Bon, elle était de notre groupe, Ikram Antaki. Bon, et qui a publié peut-être une dizaine d'ouvrages au Mexique, quoi, après. Bon, maintenant, les relations garçons et filles n'étaient pas, déjà, du temps du lycée, elles étaient sympathiques, mais enfin, il n'y avait pas de... Il y avait des amours, mais enfin, ça n'allait pas loin. L'ambiance générale était conservatrice dans le pays. Bon. Et aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens, quoi, d'ailleurs. Bon. Donc, on avait des petites aventures, des choses comme ça, mais enfin, c'était pas la liberté sexuelle.
En France non plus, hein, en 1964, ça n'était pas complètement.
Oui,
c'est ce qui est donné en 1968. D'une certaine façon.
Et puis, il y avait aussi, il y avait Beyrouth à côté, où j'en ai souvent, et où j'achetais aussi des livres et des disques, etc. En français, enfin, ceux qui manquaient, des livres en français, ceux qui manquaient en Syrie. Bon, tout ça faisait que, quand je suis arrivé en France en 65, j'étais, disons, déjà francophone, et je ne pouvais pas être dépaysé avec le bagage que j'avais. C'est-à-dire, je connaissais un peu l'histoire de France, la géographie de la France, la littérature française, etc., un peu la politique française. Et dès que je suis arrivé, je me suis trouvé
aussi chez vous.
Presque dans un pays, dans le pays où je suis né, presque.
En tous les cas, familier. Vous y partiez, Farouk Mardambeh, pour étudier ou vous aviez dans l'idée de vous installer en France? Enfin, quelle était votre idée à ce moment-là?
Non, c'était pour faire un doctorat en sciences politiques ou en sciences économiques. J'hésitais. Je suis arrivé fin 1965. J'ai été tout de suite à Caen. J'ai fait là-bas un diplôme d'études supérieures en sciences politiques. Très rapidement, d'ailleurs, c'est-à-dire, comme je vous disais, cela m'a paru assez facile, quoi. C'est-à-dire, je n'avais pas à travailler beaucoup pour le faire, pour avoir ce diplôme. Et je suis revenu à Paris, donc fin 66, où je me suis inscrit à la faculté de droit, rue Cujas, et j'assistais aux cours pour faire le doctorat. Je voulais faire un doctorat en sciences politiques, etc. Mais 2 ans après, j'ai changé complètement d'orientation et je commençais à m'intéresser surtout à l'histoire et assister à des séminaires, à des cours d'histoire, tout ça. En arrivant, j'ai appartenu à l'Association des étudiants syriens. Et c'est là, en 67, qu'il y a eu la guerre dite des 6 jours. Et l'année d'après, mai 68. Deux événements qui m'ont marqué à vie, quoi. 1967, parce que l'ambiance en France était absolument détestable, comme dernièrement pendant la guerre de Gaza, et avec une quasi-unanimité alignée sur les positions israéliennes. Une ambiance assez, parfois vraiment raciste. Il y avait des caricatures dans la presse, de droite surtout, qui rappelait les les caricatures antisémites, c'est-à-dire l'arabe avec le nez crochu, avec les ongles d'une bête, avec tout ça qui veut détruire Israël, etc. Bon. Et tout cela m'a dégoûté. Même à un moment donné, j'ai dit, je ne veux plus rester en France, je veux revenir, etc. Heureusement, il a eu mai 68 après, et c'était pour moi un moment magnifique. Quoi. J'habitais à l'époque à la cité universitaire de Nanterre, la fameuse cité universitaire où partie le 22 mars, justement, avec Cohn-Bendit. Et j'ai suivi le mouvement, comme ça, de loin, depuis mars, après mai, jusqu'à juin. Et vraiment, il y a des moments que je compte comme les plus beaux de ma vie, quoi, jusqu'à maintenant. Et quand, plus tard, surtout du temps de Sarkozy, j'entendais les... toutes les paroles insignifiantes sur mai 68 et sur tout ça, j'étais très choqué. Et bon.
Parce que qu'est-ce que vous avez vécu, vous ? Qu'est-ce qui était si beau à ce moment-là ?
Bon, d'abord, la liberté, quoi. Le mouvement de la liberté. Et pour les gens qui étaient engagés à gauche, comme moi, il y avait cette chose qu'on était à la fois, pour le Vietnam, par exemple, et pour la Tchécoslovaquie. Parce que dans le temps, il y avait un campisme, historiquement. C'est-à-dire, si vous êtes anti-américaine, vous êtes pro-soviétique, ou pro-chinoise, etc. Bon. Et inversement. Bon. Là, de voir des étudiants se mobiliser pour des causes justes. Disons, on était pour la liberté du peuple tchèque, mais aussi pour la liberté du peuple vietnamien, quoi. Bon. Ce n'était pas évident. C'était pas évident. On a vécu un peu cela en 56. En 56, il y a eu Suez. L'agression de Suez. Et en 56, il y a eu la révolution hongroise et la répression de la révolution hongroise. Il était impossible à l'époque d'être pour la révolution hongroise quand on était contre les Occidentaux et Israël à Suez. C'est-à-dire, on voyait que vous êtes dans un camp ou dans un autre et vous fermez les yeux sur les horreurs commises par votre camp. Bon. Là, en mai 68, moi, j'ai appris autre chose. Et vraiment, depuis, je suis devenu complètement, sensible à cela, c'est-à-dire maintenant, bon, on est pour les Ukrainiens et pour les Palestiniens, je veux dire, bon, et c'est très bien ainsi, c'est-à-dire de ne pas avoir à choisir entre l'un ou l'autre. Bon, et puis il y avait la liberté, et à un moment donné, on avait l'impression que il y avait l'engagement des étudiants avec les travailleurs, l'idée d'aller vers les usines. Il faut dire que tout cela dans une ambiance intellectuelle en France, qui était particulièrement riche, c'était l'époque où il y avait les plus grands noms des penseurs modernes, ce qu'on appelait les French Theory. Ils étaient là, Foucault, Deleuze, Althusser, Lévi-Strauss, etc. Je veux dire, c'était une ambiance formidable, on lisait beaucoup, et moi j'apprenais beaucoup, enfin, pendant cette période. Et je m'occupais très peu du droit, faculté de droit. Voilà. Et puis c'était après mai 68, à partir de 69, l'engagement à fond pour les Palestiniens. J'étais en 69, j'ai fait partie d'un petit groupe qui était proche du Fatah et de l'OLP. Bon, où il y avait des Égyptiens, des Marocains, des Syriens, des Palestiniens bien entendu.
C'est là que vous rencontrez Elias Sambar.
Oui. En 69.
Historien,
et
c'est là,
et on publiait un bulletin qu'on avait appelé Fedaïn, qui a duré un an, jusqu'à 69-70. Et j'ai continué donc à militer avec ce groupe-là, avec une sympathie en France pour les pro-chinois. Bon, c'était l'ambiance aussi, à l'époque. À l'époque, rappelez que...
Vous voulez dire les maoïstes.
Les maoïstes, bon.
Les pro-chinois. Et
il y avait vraiment, parmi les intellectuels de renom en France, bon, tous paraissaient pro-chinois, quoi, et étaient complètement subjugués par la révolution culturelle, etc., à partir d'informations fausses. Bon, oui, bon, mais c'était ça. Bon, et... Je veux dire, c'était pas un engagement pour les massacres ayant eu lieu, mais c'était un engagement parce qu'ils pensaient que révolution était une révolution contre la bureaucratie, qu'ils allaient libérer les gens, etc. Bon. Et cela jusqu'à 1972, on est en 1972, quand j'ai commencé à travailler aux langues à l'Institut national des langues et civilisations orientales.
Vous êtes devenu bibliothécaire à l'INALCO.
Je suis devenu bibliothécaire. Je cherchais un travail et, par miracle, j'ai trouvé ce travail qui me convenait beaucoup parce que c'était une bibliothèque, parce qu'il y avait des livres et parce que j'étais chargé des acquisitions des livres et des périodiques arabes, en langue arabe.
Et vous êtes resté 14 ans, donc vous y avez effectivement trouvé votre compte. Une dernière question pour clore cet épisode, Farouk Mardambeh. En 1970, Hafez el-Assad prend le pouvoir en Syrie. Entre 65 et 72, à ce moment où vous entrez à l'INALCO, donc vous prenez un poste à Paris, quelle a été la relation que vous avez entretenue avec la Syrie ? Vous y retourniez régulièrement ?
Oui. Alors, entre 65 et 75, j'avais des retours réguliers en Syrie chaque été. J'allais d'abord à Beyrouth parce que mes parents ont déménagé au Liban, puis à Damas. Ça, c'était vraiment chaque année. En 70, quand Assad a pris le pouvoir, en général, en Syrie, il n'y avait pas une opposition féroce, une grande opposition, une opposition déterminée contre lui, parce que le régime d'avant était assez détesté, c'était un régime militaire assez, avec des aventures gauchistes comme ça, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et 2-3 ans après, il y a eu la guerre d'octobre 73. La guerre d'octobre 73 menée par l'Égypte et la Syrie contre Israël. Et là aussi, il y avait une sorte de mobilisation populaire. Il n'y avait pas une ambiance hostile encore au régime. C'est justement juste après la guerre que lui-même, Assad, a commencé à dire, voilà, il est devenu un héros national, il a mené une guerre, etc. Et son frère et sa famille commençaient à s'installer partout, à mettre la main sur tous les rouages du pouvoir. Les services de renseignement ont enflé. L'armée est devenue une armée partisane, c'est-à-dire une armée du parti basse et une partie avec une coloration confessionnelle. Et voilà. Et
c'est donc là que les choses ont commencé vraiment à se durcir. Et d'ailleurs, vous en avez, vous aussi, subi les frais d'une certaine façon. C'est ce que nous verrons au début de l'épisode suivant, l'épisode 3, Farouk Mardambeh, l'ailleurs et le chez-soi. À demain. Merci.
Ok, merci.
C'était À Voix Nue avec Farouk Mardambeh, réalisation Laure-Hélène Planchet, prise de son Stéphane Foulon, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.